Canal Sud 92.2, vous êtes à l'écoute du magazine jusqu'à 13h. Et dans cette deuxième partie d'émission, on va parler du mouvement de grève qui anime le secteur de l'action sociale, avec entre autres, et du médico-social, avec notamment Stéphane Balanche et son camarade qui peut dire son nom ou pas d'ailleurs. Bonjour, bonjour à vous.
Bonjour.
Peut-être pour la raison, enfin, on va parler notamment aujourd'hui de cette journée de grève hein, du mardi 11 janvier qui a réuni à Toulouse plusieurs groupes du médico-social. Il y avait des éducs, il y avait des éducs en formation, il y avait des infirmiers, infirmières. Peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette journée de mobilisation, qui a répondu à cet appel et quels étaient les points de revendication, les enjeux de cette journée de grève?
Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Je suis Stéphane Balanche, je suis éducateur spécialisé dans un DITEP, dispositif thérapeutique, éducatif et pédagogique, depuis une vingtaine d'années. J'ai aussi des responsabilités syndicales sur mon établissement et aussi au niveau départemental en ce qui concerne effectivement l'action sociale. Alors, pour revenir sur la journée du 11 janvier, il faut d'abord savoir que cette journée, elle s'inscrit après un grand nombre de journées de mobilisation, effectivement, du secteur social et médico-social, qui ont débuté fin 2020 et qui se sont poursuivies sur toute l'année 2021, avec une grande journée aussi à Toulouse devant le conseil départemental des salariés du secteur, le 7 décembre 2021. Et donc le 7 décembre, nous nous sommes dit, nous allons nous retrouver effectivement le 11 janvier. Et c'est un mouvement qui va continuer, puisque je l'annonce déjà, il y a aussi une journée de mobilisation du secteur le 1er février prochain. Alors pourquoi cette journée de mobilisation? Tout d'abord, fin 2020, effectivement, alors que dans notre secteur social et médico-social, en tout cas pour le médico-social, nous avons été considérés comme des soignants. Donc nous avons dû effectivement accueillir les jeunes, leur proposer des choses, alors que nous étions effectivement dans une situation de confinement. Ça c'est pour le secteur médico-social, je parlerai aussi du secteur de la protection de l'enfance, des maisons d'enfants à caractère social, qui accueillaient pendant cette période de confinement aussi des jeunes qui potentiellement ne pouvaient pas retourner dans leur famille, puisque ce sont des placements pour la plupart judiciaires, faits par un juge qui estime que ces jeunes-là, parce qu'ils sont potentiellement en danger ou trop en difficulté au sein du cadre familial, doivent être pour un temps effectivement placés dans ces maisons d'enfants à caractère social. Et nos collègues ont travaillé aussi tout au long du confinement. Je vous passe effectivement la question des masques, etc. Donc nous étions considérés comme soignants, mais pour autant, quand ça arrange le gouvernement, nous ne sommes plus soignants. À savoir que, par exemple, nous n'avons pas bénéficié, nous, des revalorisations de salaire du Ségur. Donc ça a été un point d'ancrage très fort, avec des professionnels extrêmement engagés dans le secteur, qui ont fait tout le travail possible pendant cette période et ces périodes de confinement, et qui se retrouvent en situation où on leur dit « ben non, vous n'aurez rien, ça vous concerne pas, etc. » Donc à force de pousser, on obtient quand même certaines choses, mais il n'y a que certaines catégories de professionnels dans notre secteur qui vont bénéficier du Ségur, et tout un tas de catégories de professionnels, je pense bien sûr aux éducateurs spécialisés, mais je pense aussi à tous les personnels administratifs que nous avons effectivement dans nos établissements et qui sont là aussi pour assurer à leur manière l'accompagnement des populations en difficulté qui nous sont confiées, et bien ceux-là ne bénéficieront pas effectivement de ce Ségur. Donc il y a une grande colère qui monte effectivement dans le secteur, d'autant plus qu'on sait que sur certaines conventions collectives, on pourra peut-être y revenir plus tard, certains experts disent que nous avons perdu entre 25 et 30% de pouvoir d'achat depuis les années 2000. Donc la colère est grande. On évoquera aussi les conditions de travail. Voilà, c'est pour tous ces thèmes-là, effectivement, que nous étions en grève et en manifestation le 11 janvier avec nos collègues de la santé et que nous serons aussi le 1er février.
Bah, du coup, en termes de, en guise de, d'introduction, je vous propose d'écouter un groupe d'éducatrices spécialisées que j'ai rencontrées lors de cette manif. Je m'excuse par avance, le son est très mauvais puisqu'il y a comme un char de la CGT qui fait beaucoup. Bah, en gros, il y avait pas mal de bruit comme souvent en manifestation et c'est plutôt bon signe. En tout cas, le son est mauvais, mais on a abordé un petit peu ensemble des points liés justement à leur... Alors, vécu professionnel, tout simplement d'éduc. C'est parti.
Vous faites quoi comme travail et où
sommes vous éducatrice
spécialisée voilà. Dans le médico-social.
Vous travaillez dans une institution?
Oui, la CEI. Oui. La SEI.
D'accord. Et du coup, ça consiste en quoi votre travail?
Nous accompagnons des personnes en situation de handicap tout au long de la journée dans des institutions. Ce sont principalement des enfants et des adolescents. C'est ça? Et des jeunes adultes.
Vous êtes AESH? Non, éducatrice spécialisée, oui.
Accompagnante éducatif et social et moniteur éducateur.
Et du coup, la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui?
Alors, revalorisation salariale, parce que depuis 20 ans, de toute façon, on n'a pas été, il n'y a pas eu d'augmentation. Une, deux, c'est qu'on est avec des jeunes, avec du soin aussi. Donc, on est oubliés de cette...
De cette crise.
Tout à fait.
Souvent, quand on entend...
doublement.
Moi, j'ai entendu quelques éducateurs, justement, qui parlaient du problème du sens, de perte de sens du métier. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez?
Oui, tout à fait.
Complètement.
C'est ça, absolument.
Si, complètement, oui.
C'est pas nouveau, ça.
Ouais. On est les oubliés, quand même, du social et du médico-social.
À la base, pourquoi est-ce que vous faites ce métier?
Eh bien, notre métier à nous, c'est la bienveillance auprès de l'être humain, c'est l'accompagnement au quotidien des personnes qui sont en situation de souffrance et de handicap. Et nous recherchons les moyens de pouvoir les accompagner du mieux possible. Voilà, parce que ça pourrait être nos proches, ça pourrait être n'importe qui autour de nous. Et qu'aujourd'hui, l'État ne nous en donne pas les moyens, voilà.
Et du coup, l'État ne vous en donne pas les moyens, ça se traduit comment concrètement?
Eh bien, ce sont des moyens matériels, ce sont des moyens humains, ce sont des moyens psychologiques, pédagogiques, matériels et humains. Voilà, nous n'avons plus tous ces moyens-là, et les moyens financiers aussi, parce que c'est une charge mentale qui est énorme. Aujourd'hui, nous subissons une charge mentale énorme, et on n'est pas rémunéré par rapport à cette charge que nous portons tous les jours, où nous devons nous battre tous les jours pour le bien-être de ces personnes que nous accompagnons. Voilà, je pense que c'est ça, en fait, en gros. Voilà, on manifeste pour ça.
Ça fait combien de temps que vous faites ce métier?
Ça fait des années que nous faisons ce métier, ça fait plus de 20 ans que nous faisons ce métier.
Moi, 30 ans.
Toi aussi. Voilà.
Et vous avez observé une évolution?
Une évolution, oui. Alors, c'est financièrement, oui, pas d'évolution. Voilà, ça, c'est ça.
Régression,
voilà, tout à fait.
D'évolution salariale.
D'évolution salariale, d'évolution matérielle, d'évolution humaine aussi, parce que nous sommes de plus en plus en manque d'effectifs. Nous sommes de plus en plus en surcharge mentale. Et donc, nous sommes de plus en plus en souffrance et en burn-out. Voilà. Et il y a de plus en plus d'handicap et de souffrance dans ce pays. Voilà. Et de moins en moins de professionnels pour nous accompagner, pour nous aider. Et la direction, bien sûr, nous tourne le dos aussi. Donc, voilà. Je pense que c'est ça le problème chez nous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles.
On est un peu dans un paradigme nouveau, c'est-à-dire que ce n'est plus l'argent qui est au service de l'humain, c'est le contraire. Voilà ce qui a changé en termes de sens. Ça change tout, en fait. La philosophie de travail n'est plus la même. La manière d'accompagner n'est plus la même. La qualité le problème du sens, oui, c'est la première chose que nous constatons plus. Oui, effectivement, le manque de revalorisation de salaire.
On est moins
dans l'humain. On a beaucoup de responsabilités, de plus en plus. On est très peu accompagné par nos directions, de moins en moins, qui s'éloignent du terrain.
De moyens aussi.
La question du collectif aussi. Le collectif est remis en question. Tous les collectifs sont remis en question.
Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer en quoi justement le collectif est remis en question, comment ça se concrétise?
Ça se matérialise, notamment par exemple dans les réunions. Question du collectif dans la réflexion déjà, c'est-à-dire qu'on fonctionne différemment. Il faut être de moins en moins en réunion pour avoir le moins de... La réflexion elle est de moins en moins collective, le regard pluriel est de moins en moins là, c'est-à-dire que toutes les directions s'éloignent du terrain. Nous ne sommes plus au courant de ce qui se fait vraiment sur le terrain. Et on a pu... même le sens du collectif est remis en question. C'est-à-dire en quoi le collectif est une intelligence, ça c'est au contraire. On est sur de l'individualité. De toute façon, la notion de parcours dans le médico-social, c'est bien ça. Ça veut dire qu'on est passé un petit peu, on a un peu calé le médico-social sur le sanitaire. C'est-à-dire, l'individu, ben, on va l'amener une heure en kiné, une heure en locaux, une heure en machin. Et le sens de ce qui fait le collectif du travail éducatif, il est remis en question. C'est-à-dire, en quoi les humains, quand ils sont en groupe, peuvent créer une richesse de partage aussi, qui fait vivre souvent nos enfants qui sont très handicapés. Donc la question du collectif, elle se pose entièrement dans la manière de les faire vivre. Qu'est-ce qui fait qu'on est vivant? C'est qu'on est relié aux autres humains par des relations, et plus elles sont riches, et voilà. Donc c'est bien de faire de la rééducation. Déjà, ça aussi, c'est remis en question. Il y a de moins en moins de rééducation, c'est très difficile de... Parce que déjà, les salaires ne sont pas très attractifs. Là, il y a plein de choses qui... Oui, il y a un changement profond de philosophie de travail.
Et là, vous évoquiez justement le parcours, qui est un petit peu un nouveau procédé de suivi des personnes en situation de handicap. Et comment est-ce que comment est-ce que vous, votre travail, il se modifie avec justement cette philosophie du parcours?
Est-ce qu'on individualise toutes les prises en charge? C'est-à-dire que un jeune, mettons, il a un paquet de prises en charge qui s'enchaînent. La prise en charge va être prioritaire, mettons, sur le travail éducatif. On va bien, nous, les éducateurs, on prend en charge après les rééducateurs, souvent. C'est-à-dire, d'abord, il y a la rééducation. En quoi l'éducation spécialisée? L'éducateur spécialisé, lui-même, il a une technique spécifique. Alors, c'est vrai que nous aussi, en tant qu'éducateur spécialisé, on a à défendre notre manière de travailler. Et peut-être, on ne le fait pas assez, on ne défend pas assez. Nous aussi, on a une technicité. Et cette technicité-là, elle permet aux gens de vivre entre eux. Et en fait, ça s'est remis en question. C'est-à-dire tout ce qui fait collectif, mais c'est pas que lié, c'est pas que dans le milieu spécialisé, c'est en général. La société, alors il y a des... Médico-social n'est pas novateur, très novateur. Maintenant, il y a beaucoup d'endroits, il y a certaines entreprises où la question du collectif, elle est beaucoup mieux défendue que dans le médico-social.
Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on est dans le soin. On a un accompagnement auprès de ces jeunes et on est aussi dans le souhait. Le médico-social, on ne doit pas être oublié de cette loi. Ce n'est pas possible. Et puis, ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu du tout de revalorisation, mais c'est vraiment indigne, quoi.
Vous parlez de la loi Ségur? Non, vous parlez de quelle loi?
La loi Ségur.
Il faut savoir, aujourd'hui, il y a des dans le médico-social, il y a des services... Il y a des services qui sont créés, mettons, pour les remplacements. Les gens ne sont pas payés à la même hauteur que l'éducateur, un éducateur spécialisé. Quand il fait pas nous, c'est Melting, notre organisme qui gère tout ce qui est remplacement. Les gens qui travaillent chez Melting, Mentirin spécialisé dans le médico-social, les sociales et le sanitaire, les gens sont moins payés que... Voilà, c'est externalisé, les services, ils sont externalisés. Ça a toujours été... Quand on commence à externaliser, c'est-à-dire on mutualise... De toute façon, on voit bien, tous les petits établissements se regroupent, font des grosses structures. Donc, dès qu'on commence à regrouper, c'est pour faire des économies et
donc,
pas
et puis,
pour recréer de la qualité.
Il n'y a plus de qualité du travail. C'est le rendement, c'est la rentabilité qui compte. C'est ce que ça peut apporter financièrement et certainement plus la qualité et l'approche qu'on peut avoir avec la personne.
C'est l'argent, voilà. c'est pas l'humain, c'est pas le... D'ailleurs, depuis qu'on a la démarche qualité, plus on fait de la démarche qualité, moins on fait de la qualité.
C'est quoi la démarche qualité?
La démarche qualité, c'est tous les dispositifs qui ont été mis en place pour évaluer. La démarche qualité, c'est l'évaluation de la prise en charge.
Vous êtes très évalué dans votre... Vous vous sentez très évalué dans votre travail?
Pas directement. Mais très indirectement, oui.
Indirectement, on est très évalué, oui, bien sûr. Il faut qu'on apporte quand même une qualité par rapport à la méthode de travail qu'on nous a donnée à mettre en place. Oui, ça, c'est sûr. Et on ne tient pas forcément compte... c'est institutionnel.
L'évaluation, elle est beaucoup plus insidieuse. Mais elle existe. Le projet, c'est faire un projet. Un projet, il y a évaluation. Alors, c'est un joli mot pour dire, on ne peut pas être contre le projet, mais dans la réalité, c'est une manière d'évaluer les gens. Voilà, il faut peut-être évaluer les gens, c'est sûr. Mais c'est pas comme... L'objectif, c'est la réduction de moyens. C'est pas l'amélioration de la qualité. Il y a eu de l'amélioration de qualité dans le travail, parce que moi, j'ai démarré il y a longtemps. Effectivement, à un moment, c'était peut-être un peu n'importe quoi. Mais maintenant, on a vraiment changé de...
D'optique. On a changé d'optique et de méthode de travail. Voilà.
Après, c'est pas que lié à notre milieu, je pense, c'est général.
Tout est fait en accéléré aujourd'hui. On ne prend plus le temps de prendre le temps, voilà.
Le Covid comme situation d'isolement,
la solitude, la division aussi, ça y est, pas mal. Hein.
C'est une crise sanitaire.
Bon, Marie-Cécile,
merci beaucoup.
Merci à vous.
Donc beaucoup de choses dans cet extrait qu'on va pouvoir commenter en pas tout à la fois, mais peut-être pour commencer, il y a un terme qui arrive assez tôt, c'est la charge mentale. De quoi on parle quand on parle de charge mentale pour tous ces métiers du médico-social?
Donc ça, je veux bien m'y coller. Moi, c'est David Portola, je suis délégué syndical central CGT dans une des grosses associations. Donc moi, c'est l'ENRAS. Dans les grosses associations du Toulousain ou de la Haute-Garonne, on a l'ASEI, comme les collègues qu'on vient d'entendre là. Il y a l'ARCEA, il y a... voilà. Donc, sur le témoignage en général, il est très dense, tout en étant rapide, là, 7 minutes, mais elles disent beaucoup de choses qu'on va, je pense, développer parce qu'on est en accord sur l'essentiel. Bon, c'est logique, on était dans la même manifestation. La charge mentale, c'est un concept qui s'applique très très bien à notre métier, je trouve, encore plus partant de Covid. Et c'est vrai qu'en fait, on travaille avec des publics qui peuvent être très différents. Ce qu'on appelle les publics en situation de handicap, par exemple, ça va de d'enfants, par exemple, autistes. Ça peut être des adultes qui ont des handicaps moteurs. Chacun, d'ailleurs, devant être traité et accompagné de manière différente. Ça peut être des jeunes qui ont plus des problèmes sociaux et éducatif, mais assez important pour troubler les apprentissages, donc c'est qu'ils vont par exemple aller en ITEP. Bref, on voit qu'on a vraiment des publics totalement différents. Et donc tout ça, ça demande... comme ils vivent pour chacun des situations d'exclusion, des situations d'injustice, effectivement, la question de la charge mentale, ça veut dire que pour les professionnels du travail social... Il s'agit parfois de prendre un peu sur nos épaules ce que vivent ces enfants, pour aller vite. Un enfant qui va nous revenir de week-end, par exemple, et parler de violences qu'il a pu subir dans la famille, même si c'est rare, bien entendu, mais ça arrive, c'est des situations qu'on vit forcément en tant que professionnel très, très violemment. La question de la formation, je crois qu'elle l'évoque pas ou elle l'évoque sous une autre façon, mais c'est très important de pas tout centrer sur les éducateurs et les éducatrices. Il y a les personnels donc administratifs, Stéphane en parlait, mais il y a aussi les professionnels du soin, psychologues, psychomotriciens, orthophonistes. Et il y a aussi ce qu'on appelle les services généraux. C'est les collègues qui vont être maîtresses de maison, femmes de ménage, qui vont gérer les transports. Et c'est dans ces moments, par exemple, où un enfant va dire... des choses qui se sont passées, qui peuvent être traitées, qui font partie. Bon. Et c'est des collègues qui doivent être, et qui le sont d'ailleurs, ou qui l'étaient jusqu'alors, qui doivent être formés, qui vont des fois vivre la violence. On a aussi des jeunes qui peuvent être très violents, qui ont toute la... Comment dire, on les juge pas, on comprend. Enfin, ils sont pas violents pour rien. Mais quand on ne sait pas justement mettre des mots sur pourquoi cet enfant est violent alors qu'on n'est que gentillesse avec eux... alors que finalement, c'est des fois, je sais pas moi, un enfant qui justement n'a jamais vu d'adulte gentil, quand il voit un adulte gentil, ça va être une situation de violence pour lui, donc il va frapper, il va crier, insulter. Bon. Et ben ça, c'est les collègues qui font le transport, par exemple, ou qui sont maîtresses de maison, si elles n'ont pas une formation pour comprendre la psychologie du développement des enfants, c'est des situations, on revient sur la
charge mentale.
Exactement, la charge mentale et voir la violence, même symbolique, des fois.
Ouais, donc là, en fait, actuellement, tous les personnels qui travaillent au contact, enfin, qui travaillent avec les publics, donc que ce soit les enfants avec des problèmes en situation de handicap ou avec des problèmes sociaux, ils n'ont pas tous une formation pour accueillir la violence sociale, justement, qui se répercute sur ces enfants ou sur tous ces personnes accueillies.
Normalement, ils en ont. Et après, elle pointait la question. Vu que les salaires sont pourris, vu que les conditions de travail sont dégradées, avec tout ce qu'elles viennent d'expliquer, qui des fois est très subtil, quoi. C'est ce collectif qui s'effrite, cette évaluation totale et qui.
On y reviendra point par point.
Je me doute. Et donc tout ça concourt à faire qu'en fait, il y a de moins en moins de professionnels qui s'engagent dans, dans nos métiers. Ouais. Et donc, bien sûr qu'il y a des gens non formés, pour aller vite, qui vont être pris sur tel ou tel, poste, que ce soit éducatif, services généraux ou même administratif. Parce que finalement, la secrétaire d'accueil ou la secrétaire de direction, quand elle entend des enfants qui insultent, qui niquent nos mères toute la journée, il vaut mieux qu'elle comprenne pourquoi ces enfants sont à cet endroit comme ça. Parce qu'autrement, elle aussi, ça va lui paraître bizarre et violent. Et d'ailleurs, se faire insulter sa mère ou se faire... on a beau être professionnel, oui, ça s'appelle de la charge mentale, enfin, à minima. Et donc, on sait qu'ils ont leurs bonnes raisons, mais il y a des jours, si notre maman, elle est vraiment malade, par exemple, nous aussi, on est des petits humains et on vit des choses. Donc, ça aussi, ça doit se traduire. C'est le cas, hein, avec nos conventions collectives aujourd'hui. Par exemple, il y a des congés spécifiques qui sont en plus du code du travail, qui sont des congés conventionnels et qui sont aussi remis en cause. C'était une des causes, hein, de la grève de ce mardi 11 et des prochaines. Et des précédentes, c'est que les organisations employeurs, que malheureusement on appelle syndicats employeurs, mais enfin ça me fait toujours trop mal de l'exprimer comme tel, donc les organisations employeurs, les organisations patronales sont en train de remettre en cause les conventions collectives, y compris qui, par exemple, entre autres conquis, je ne dis pas à qui, parce que les conquis ça veut dire qu'on les a gagnés et que toujours les patrons et les riches ils essaieront de nous les revoler. Par exemple, ces congés d'ancienneté ou ces congés trimestriels qui permettent qu'on se repose, qu'on s'occupe de nous-mêmes, parce que pour s'occuper des autres, il faut s'occuper aussi de soi-même.
On fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Sur Canal Sud 92.2 pour la suite du magazine consacré aux conditions de travail, on va dire de manière générale, des travailleurs, travailleuses du médico-social. Il y a un point là dans le témoignage qu'on a écouté de ces camarades là qui étaient au rassemblement le 11 janvier, cette question du collectif. J'avais une question, en fait. En discutant avec une copine qui était éduque, elle me parlait en fait de nouvelles strates de hiérarchie en fait qui se mettent en place dans certaines institutions, dans certaines associations, des rôles de coordination qui viennent on va dire remplacer le lien en fait entre les équipes et les espaces de coordination, souvent pour faire tampon entre une direction avec des objectifs qui sont pas forcément partagés par l'équipe des travailleurs travailleuses. Est-ce que vous pourriez dire un mot sur justement cette place là donnée à ce nouveau rôle de coordination et de rapports hiérarchiques en fait dans le travail des éduques?
Alors je veux bien répondre là-dessus, mais tout d'abord pour revenir sur la question de la charge mentale très rapidement, c'est d'abord dire que nous on voit passer en tant que syndicat et parfois représentant du personnel et nos collègues aussi, en fait nos collègues n'arrivent plus à la retraite. Ils n'arrivent plus à la retraite. Nous traitons effectivement énormément de dossiers d'inaptitude. C'est-à-dire que les gens à 45, 50 ans, 55 ans sont tellement fatigués que la médecine du travail leur dit « Vous ne pouvez plus exercer votre métier dans les conditions qui sont celles qui sont proposées dans les établissements. » Je voulais le préciser sur la question de la charge mentale parce que c'est un élément concret qui fait que nos collègues n'arrivent plus tranquillement à la retraite. Ça, c'est une première chose. Elle parle aussi des oubliés. Et moi, je voudrais dire que quand on est oublié, ça veut dire qu'on sait qu'on est là, mais on nous met de côté. Et c'est une réalité. Nous sommes les oubliés du Ségur. Mais nous sommes surtout aussi des invisibles. Nous avons l'impression, effectivement, et c'est pour ça que je vous remercie vraiment à Canal Sud de faire une émission sur le secteur social et médico-social, car en effet, la plupart des grands médias ou des médias locaux ont énormément de difficultés à venir couvrir effectivement nos manifestations, à nous rencontrer, à nous demander des comptes. Nous avons vraiment l'impression d'être invisibles. Voilà, cette petite introduction étant faite, effectivement, hiérarchiquement, le modèle de l'institution médico-sociale ou sociale d'il y a quelques dizaines d'années, c'était un établissement, une direction d'établissement, des chefs de service et puis des équipes éducatives, thérapeutiques, pédagogiques, voilà, des services généraux, etc. Tout ça, c'est un peu modifié. On a vraiment l'impression qu'on a des mouvements d'échelle qui font que, ben, par exemple, on peut avoir des pôles, ce qu'on appelle des pôles, c'est-à-dire un regroupement de plusieurs établissements. Et je pense que les collègues de l'ASEI sont bien placés pour en parler, puisque c'est effectivement ce qui s'est passé chez eux, la mise en place de pôles. C'est-à-dire qu'on a un directeur pour plusieurs établissements. Donc effectivement, la compréhension même de ce qui se vit dans un établissement, quand on est directeur d'un établissement, quand on a plusieurs établissements, ben forcément, ça rajoute de la complexité.
Et des directions de plus en plus éloignées du terrain, en gros.
Ah, ça, c'est certain, puisqu'on leur demande, et notamment les ARS, leur demande tout d'abord d'avoir une gestion économique de l'établissement, à moindre coût, en rationalisant les coûts. Donc, effectivement, les directions d'établissement passent beaucoup plus de temps effectivement, à s'occuper de ça, à s'occuper des questions financières et administratives, que, effectivement, de comprendre ce qu'il en est. Et on le voit bien sur les formations en travail social, et notamment sur les formations des directeurs. On a vu arriver des masters qui n'existaient pas, etc., et qui se passent, effectivement, dans les écoles, dans les écoles qui font de l'économique. Voilà, ça s'appelle d'ailleurs la gestion, effectivement, des établissements sociaux et médico-sociaux. On est bien dans cette gestion-là. Et donc, effectivement, par contre, la gestion de ce qu'il en est de l'accompagnement réel des populations que nous accueillons, eh bien, forcément, il y a quelque chose qui se délite. Du coup, les chefs de service, eux, montent quasiment comme des directeurs adjoints, on va dire. Et il faut bien avoir quand même essayé de trouver du sens dans les équipes. Et donc, on a créé les coordinateurs de parcours. Mais les coordinateurs de parcours, nous, on défend la question du diplôme. Voilà, pour nous, la question du diplôme, c'est très important. La reconnaissance du diplôme, y compris salarialement, mais y compris dans les établissements, pour nous, c'est fondamental. Et bien, ces coordinateurs font faisant fonction, à la fois un peu de chef de service, à la fois dans le management des équipes, et souvent, ce sont des éducateurs spécialisés à qui on demande effectivement de faire cette petite formation pour pouvoir aller à ces postes-là. Et du coup, l'éducateur spécialisé perd aussi effectivement le sens réel du travail avec un groupe d'enfants en difficulté, de l'accompagnement individuel pour certains. Et on voit arriver effectivement des faisants fonctions, c'est-à-dire que notre secteur est aussi empreint de déqualification. C'est-à-dire que petit à petit, effectivement, les postes augmentant au niveau des qualifications, en fait, les personnels qui arrivent, on va dire, pour faire ce qui est le travail de terrain, le travail de groupe. Moi, j'ai été formé pour ça. Je n'ai pas été formé pour gérer financièrement, etc. Même si, dans un groupe, on gère aussi l'aspect financier, voilà. Et on voit bien qu'il y a une translation, là, qui nous inquiète beaucoup. Et ça se retrouve aussi dans les formations d'éducateurs spécialisés.
Ils ont même commencé, hein, enfin moi je rejoins bien sûr tout ce que dit Stéphane, ils ont même commencé par casser tous les diplômes, enfin non, ils ont commencé par casser les formations et ils ont appelé ça la réingénierie. Alors déjà rien que quand on vient nous amener ce genre de mots, dans notre secteur comme dans d'autres, hein, on fait la réingénierie des diplômes du travail social.
Concrètement, concrètement ça se passe comment? En fait en gros les anciennes formations pour devenir éduc, se sont transformés, il y a des formations qui n'existent plus et ça a été remplacé par des nouveaux programmes, par des nouveaux termes, alors, par des nouveaux titres, c'est quoi?
Alors, pas encore, alors ils ont créé un nouveau diplôme qui est AES, donc qui est, je dirais, en dessous, c'est pas en termes de hiérarchie,
hein,
mais
qui est en dessous,
alors accompagnant éducatif et social, AES, accompagnant éducatif et social, très mal payé, qui va faire, alors, en fait, il y a tout ça qui existe. Comment dire? C'est compliqué. Dans le social, c'est vrai que, par exemple, des fois, des moniteurs éducateurs, sans parler des compétences, il y en a des très compétents, comme il y a des éducateurs incompétents, comme il y a en fait, dans chaque métier. Bon. Mais des fois, des moniteurs éducateurs étaient employés à des tâches qui devraient être celles d'éducateurs spécialisés.
Et payés...
payés comme des moniteurs... Et en fait, c'est bien là que le bas blesse, parce qu'on doit être payé pour le travail qu'on fournit. Et donc, symboliquement, j'ai envie de dire qu'un moniteur éducateur, en général, méditrice éducatrice, est contente... de faire des tâches qui sont des fois plus valorisantes, qui peuvent l'être, mais qui ne sont pas payées comme telles. Et idem pour les éducateurs aujourd'hui, éducatrices, qui deviennent ces coordonnateurs, coordinatrices, qui se retrouvent... La coordination, déjà, personne ne sait si c'est un O, si c'est un I, enfin, il y a un grand flou, hein, au milieu dans ce mot. Et en plus, on se retrouve des fois, donc moi je refuse, hein, enfin, je ne le suis pas, il n'est pas non plus, mais on se retrouve par exemple à être en situation hiérarchique, ni sans avoir le salaire, ni sans avoir la vraie hiérarchie nécessaire pour dire à un collègue assistant social « Ah ben, excuse-nous, là, t'as pas rendu le rapport à tel jour. » Enfin, vous voyez, on coordonne pour avoir tous les documents, etc. Et ça va avec ce qu'elles disent dans le reportage sur le projet. Le projet, c'est notre projet.
Cette
notion de projet, en fait, c'est... Quand c'est fait par des équipes et du collectif, ça peut avoir du sens. On va pas se mentir. Mais le problème, c'est qu'en fait, quand on sait pas, on dit c'est pas dans le projet. Quand on veut dire que c'est trop cher, on dit que c'est pas dans le projet. En fait, c'est un mot valise. Donc, il peut y avoir des choses positives. Il est vrai que dans l'histoire, elles le disent elles-mêmes, hein, dans l'histoire, ça veut pas dire que tout était bien. Il y a 30 ans, il y avait, ou même 20, il y avait des aberrations. Il y avait des grands internats avec tout le monde était de tous les âges et dans le même... dans la même pièce. Bon, il y a plein de choses qui... même là... Comment on traitait des fois les handicapés ou les personnes en situation de handicap, même ce mot est venu changer. Bon, il y avait des problèmes. La question de l'évaluation, c'est pareil. C'est vrai que des fois, on pouvait garder ou faire végéter un enfant pendant 10 ans sans faire évoluer sa situation. Ça, c'était le système d'avant. Sauf que en venant changer des pratiques qui méritaient des fois d'être changées, on a rapporté toute l'idéologie libérale. Celle où tout doit être quantifiable. Sauf que quand on travaille avec des humains, tout n'est pas quantifiable quand on travaille avec des humains, et encore moins avec des humains qui ont été cassés par la vie pour les jeunes, ou qui ont des différences, des handicaps, et qui ne peuvent pas. Par exemple, un travailleur handicapé ne peut pas être productif comme un travailleur ordinaire. Et pourtant, on va demander à des gens en situation de handicap, dans les ESAT par exemple, de travailler de plus en plus et d'être de plus en plus productifs, alors qu'avant on utilisait les ESAT juste pour l'intégration par le travail des personnes handicapées, ce qui est complètement différent en tant que finalité.
Oui, il ne peut pas et on ne veut pas lui demander ça non plus. Quoi.
Voilà. Or, c'est ce qu'on demande.
Et
de plus
du
en
coup,
plus.
J'avais quand même une question sur le rôle de l'informatique dans justement ce suivi. Parce que de l'extérieur, en fait, j'ai l'impression que dans beaucoup de métiers, l'utilisation de l'informatique et du suivi, ça va imposer en fait aux travailleurs de laisser une trace justement de leur travail et du suivi de ces personnes-là. Non pas que ce soit problématique en soi de faire ce suivi-là, mais en fait, ça transforme aussi... Enfin, ma question, ce serait en quoi ça transforme aussi le métier d'éducateur et les limites en fait aussi de cette utilisation de cet outil-là.
Alors, sur la question, effectivement, de l'informatique, alors je crois que les établissements sociaux et médico-sociaux ne pouvaient pas faire autrement, effectivement, que de prendre ce virage. Sauf que, comment c'est fait? Si, effectivement, la question de l'informatique, c'est de rentrer des données, et certains établissements évaluent quand même à 30, 45, voire une heure par jour, pour rentrer l'ensemble des éléments dans un ordinateur. En même temps, nous, ce qui fait collectif, et on en parlait tout à l'heure, c'est aussi le partage de ces informations-là. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose quand on va effectivement rencontrer son collègue éducateur pour lui dire « Tiens, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui avec ce jeune. Moi, je te donne ces informations-là. Mais je peux te dire aussi comment moi, de ma place, je l'ai ressenti. »
C'est ça, c'est que en fait... Il y a aussi une subjectivité en fait dans le fait d'en parler. Ça me rappelle une expérience que j'ai eue en travaillant dans un séjour adapté avec des personnes en situation de handicap, qui en fait nous, bon déjà en plus on n'était pas formés, bon voilà, et on avait accès en fait à des fiches sur le suivi de ces personnes, qui étaient des personnes âgées en situation de handicap, et genre il y avait toute leur vie, genre il s'est passé un truc problématique en 92, moi je suis au courant, et ça c'est aussi une violence, et en plus c'est écrit comme ça, noir sur blanc, ça fait pas l'objet d'une transmission. Moi, je trouve ça vraiment... Enfin, là, c'est mon avis que je donne, mais je trouve ça franchement problématique.
Oui, ça, c'est vieux. C'est vieux comme le travail social, et c'est aussi un des aspects... Alors après, c'est là où ça devient politique ou même syndicalement. Nous, on a toujours défendu... Moi, je me souviens de vieux camarades. Je pense à mon camarade Francis, qui disait « On n'écrit pas sur les enfants » ou « On s'écrit entre nous, mais on laisse pas de traces. » Par exemple, on le voit avec la question religieuse, par exemple, qui peut être compliquée. Écrire aujourd'hui qu'un enfant se réfugie dans la religion, vous voyez bien de quoi je parle, eh ben, vu que c'est un enfant, on dirait que c'est pas grave, ça c'est une donnée objective. Mais moi je me refuse toujours à écrire ce genre de choses pour que dans 10 ans, quelqu'un ne le lise pas en se disant « Ah mais vous voyez, il était en puissance un terroriste ou un etc. etc. » Donc ce que vous avez vécu dans ce que vous rapportez, c'est pas que l'informatique pour le coup, parce que des dossiers, il y en a toujours eu, et il faut faire très attention à ce qu'on écrit, parce qu'effectivement, ceux qui un jour sont des enfants vont porter toute leur vie ce qui a été écrit sur eux en 92 ou en 87, que ça soit en informatique ou pas. L'outil informatique permet malheureusement de rajouter, en fait, il vient se rajouter à la rationalisation que j'espère avoir dénoncé un peu avant, c'est-à-dire qu'en fait, tout doit rentrer dans des cases. Or, les enfants ou les adultes que nous accompagnons, que ce soit dans la protection de l'enfance, dans les ITEP ou dans les IME ou dans les ESAT, ne sont pas des machines, enfin, comme aucun d'entre nous, en fait. Donc, tout ne rentre pas dans des cases dans la vie. Mais une case, c'est facile, parce que si elle est cochée, eh ben, elle rapportera 35 euros. À l'institution. Ou alors, elle ne les rapportera pas. Aller voir un psychologue, c'est pareil. Des fois, ça peut durer une demi-heure, mais des fois, ça doit durer beaucoup moins. Et ce n'est pas pour ça que quand ça dure moins, ce n'était pas tout aussi productif. Et donc, en fait, nous, les humains, quand on travaille avec de l'humain, on ne peut pas tout quantifier. Et c'est ça qui est vraiment qui est dangereux dans tout ce qui est en train de se passer. Et un des plus mauvais scénarios, après, pardon Stéphane, je te laisse, mais un des plus mauvais scénarios, c'est l'idée qu'on peut faire des éduques en libéraux et que tout peut se faire en libéral. Et ça, c'est en train de se passer. Il y a un
texte. Avec l'intérim, notamment.
Alors, c'est encore autre. Mais oui, en tout cas, l'intérim vient se rajouter. Si on voulait, on fait un point juste après. Mais non, libéral, ça veut dire qu'il y a des gens qui montent un cabinet d'éducateurs. Comme on va faire assistante sociale en libéral. Alors, psychologue en libéral, ça existe déjà, y compris pour les enfants ou les adultes qui ne sont pas en institution. Mais ce concept de travail social en libéral, ça vient exactement retoucher l'histoire du collectif. C'est que quand on est plusieurs autour d'une table, qu'on s'engueule ou qu'on produit du collectif. Là, c'est pas une question de productivité, mais c'est une question de on réfléchit ensemble. Et y compris, on peut réfléchir avec le jeune, avec l'adulte, mais on le fait ensemble. Et on confronte à quoi. Quand on est éduc en libéral, on n'a plus ces réunions pluri. Elles en parlent, du mot pluriprofessionnel. On n'a plus se penser ensemble et se construire ensemble. Et ça, pour notre métier, pour nos métiers, en fait, c'est une catastrophe. Et ça sera dur de revenir dessus. C'est même 20 ans ou 30 ans d'acquis de ce qui fait la différence entre le temps où c'était des bonnes sœurs qui ont fait des choses, enfin qui des fois sont occupées de gens dont personne ne s'occupait aussi. Hein. Mais c'est ce qui fait le temps des curés et des bonnes sœurs d'il y a 100 ans à des gens qui ont réfléchi, qui ont fait des erreurs aussi, mais qui ont réfléchi au métier et qui ont mis du collectif en se disant qu'il n'y avait pas une personne qui pouvait être toute puissante sur les enfants. J'arrête.
Oui, pour revenir à cette question-là, bien sûr que je suis d'accord avec David et on voit bien l'exemple concret pour moi, c'est ça. Je veux pas faire de redites, mais c'est le temps qu'on passe devant l'ordinateur. Effectivement, on ne le passe pas à discuter avec nos collègues et à faire de la transmission orale. Enfin, on avait un vieux camarade qui nous disait tout le temps, on ne travaille pas avec des boîtes de conserve. Et effectivement, c'est bien ça. Autant sur la charge mentale, l'ouvrier à l'usine, quand il bosse avec ses boîtes de conserve, il rentre chez lui, il est fatigué physiquement, il est peut-être usé. Mais par contre, il peut, si tant est qu'il a un bon salaire, s'occuper de sa famille, etc.
Et ouvrir une bonne boîte de conserve.
Et ouvrir une bonne boîte de conserve, mais peut-être d'une marque concurrente. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais on pourrait parler de la concurrence aussi au sein des institutions du médico-social. Donc, on ne travaille pas avec des boîtes de conserve. Donc, forcément, ça rejoint cette charge mentale. On rentre chez nous avec les problématiques, effectivement, des jeunes dont nous nous sommes occupés. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut, effectivement, amoindrir cette charge? C'est aussi la question de le partager collectivement avec l'ensemble des acteurs et des professionnels qui nous entourent. Et ça, petit à petit, on est en train de le grignoter. Je sais que dans certaines institutions, avant, dans les réunions, ce qu'on appelle pluridisciplinaires, où il y a tout, effectivement, les corps de métier, si on avait un groupe d'éducateurs, on va dire sur une unité de vie de 4, tous participaient à la réunion. Petit à petit, il a été, dans certaines institutions, décidé que seul celui qu'on appelle l'éducateur référent, maintenant qui peut s'appeler le coordinateur de parcours du jeune, etc., seul lui participerait à la réunion. Et tout ce que ça enlève effectivement au collectif, tout ce partage que ça enlève, eh bien entendu, alors ça rationalise les coûts, parce qu'on va dire c'est moins cher d'avoir un seul éducateur en réunion pendant une heure et demie que quatre, certes, mais en tout cas, ça fait qu'on perd le sens de notre travail. En majorité dans les institutions.
Moi, j'ai une autre question, c'est que, en fait, en tant qu'éducateur, éducatrice, vous êtes aussi chargée d'appliquer les lois prises par l'Assemblée nationale, les lois de la République, quoi. Ça me questionne. Par exemple, l'ANDRAS, je crois que c'est l'association qui est chargée du DAOMI. À Toulouse. Je pense aussi à toutes ces associations qui accompagnent les demandeurs, demandeuses d'asile et qui, malgré toute la bonne volonté qui est la leur, doivent dealer et accompagner les publics, enfin en tout cas les personnes immigrées, dans un parcours qui se résume parfois à des épreuves en fait face à un État qui leur ferme la porte et ça c'est sans parler d'un racisme d'État en fait qui quand même est un peu ce que l'on observe en France aujourd'hui. Du coup, quel rapport aussi par rapport aux institutions dans lesquelles les gens travaillent et les éduquent comme courroie de transmission des lois des lois, en l'occurrence par exemple racistes, qui sont menées si on pense à l'accompagnement des personnes demandeuses d'asile.
C'est compliqué parce que on peut pas dire qu'on va. Je vais pas vous dire à ce micro qu'il y a des collègues qui font des choses qui seraient illégales. En fait, je peux pas vous dire ça. Et pourtant, il y a peut-être des collègues qui font des choses qui, pour accompagner, pour accueillir des fois un enfant qui va dire qu'il a fait quelque chose qui est illégal, et ça veut pas dire qu'on va l'accompagner chez la police. C'est pareil pour la question que je comprends sur la question des migrants. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des collègues qui, en dehors du travail, vont, par exemple, accompagner. Et moi, dans mon institution, pendant le confinement, on a eu. Nous, on n'accueille pas. Normalement, c'est pas. On n'accueille pas de jeunes migrants. Mais pendant le confinement, vu qu'on n'accueillait pas nos jeunes, on a accueilli de jeunes migrants. Ben, je sais que peut-être, y a-t-il beaucoup de collègues qui, une fois que le confinement a été fini et que les choses sont revenues à leur place, ont accompagné via des associations. D'autres associations, mais ont accompagné les jeunes qu'on avait vus passer. Et je sais que c'est une pratique qui se fait chez nous, mais comme dans la plupart des associations. Donc la question de la légalité, elle ne peut pas se porter publiquement pour savoir ce qu'on fait ou ce qu'on n'en fait pas, précisément, surtout si des fois on franchit certaines barrières.
Oui, mais ma question, c'est qu'en fait, là, on commence à parler de la concurrence et tout ça. En gros, toutes ces associations... Et d'ailleurs, il y a une captation par des associations de plus en plus grosses qui captent justement ces marchés publics du social avec la concentration en fait des activités du social dans les mains de grosses boîtes qui du coup font les yeux doux à l'État et qui du coup pour acquérir ces marchés parce qu'on parle d'un truc économique, du coup, au final, sont dans une position d'application. Et en fait, ça fait que cette concurrence-là et ce marché-là, enfin, ce fonctionnement-là, il met les éducs dans une position de contrôle qui est attendue d'elles. Enfin, dans une certaine manière, il peut y avoir cette dérive-là d'avoir un rôle de contrôle plutôt que d'accompagnement, étant donné que c'est l'État qui sélectionne les... et qui oriente l'activité de ces boîtes du social. Je suis désolée, c'est pas très compréhensible.
Non, mais c'est réel, et c'était pareil avec la prévention spécialisée, c'est les éducs de quartier, qu'on appelle. C'est-à-dire, ils sont quand même payés par les départements, les mairies, etc. Et en fait, c'est quelque chose, c'est pas un débat pour l'évacuer, c'est pour dire que c'est constitutif aussi du travail social lorsqu'il est... Parce que les associations, comme vous dites, elles répondent à des marchés, moi je vous rejoins, et donc c'est bien le système concurrentiel en général. Et donc... Elles y répondent. Et à l'intérieur, il y a des travailleurs qui travaillent pour gagner leur argent et qui ont affaire face au dilemme que vous dites. Je ne vous dis pas qu'ils n'existent pas, je vous dis qu'ils existent. Et qu'on compose, avec. Et que pour certaines fois, on ne peut pas vous dire de quelle manière on compose avec. Mais c'est un des cœurs du débat philosophique sur le travail social qui est, même s'il n'était pas concurrentiel, je veux dire, il y a toujours cette idée de l'État qui, des fois, veut contrôler les populations. Vous parlez des migrants, mais ça peut parler. On peut parler du contrôle des populations pauvres. C'est même comme ça que le travail social, des fois, a gagné. Enfin, voilà, hein, qu'il y a des associations qui ont été créées. Comme d'ailleurs de contrôler les handicapés. Enfin, la notion du contrôle, elle est toujours pas loin du débat philosophique qu'on peut avoir sur le travail social.
Oui, moi, je pense qu'il serait intéressant, effectivement, de venir interroger les conseils d'administration, des associations du secteur, effectivement sur ces questions-là. Parce que si on le prend du côté, et j'entends ce que vous dites, bien sûr que les professionnels, les salariés, qui sont soumis à leur contrat de travail, soit effectivement, ils font des choses au sein de leur travail, et à partir de ce moment-là, ils risquent, ou alors ils se démettent, ou alors ils disent, parce que moi ça ne me convient pas philosophiquement, mais qu'est-ce que je vais manger à la fin du mois, parce que la réalité quand même c'est celle-là. Soit effectivement ils font des choses ou pas, voilà, dans un engagement on va dire citoyen, au-delà effectivement du cadre du travail. Et ça, je pense que ça se fait, en effet. Mais je crois qu'il y a quelque chose à questionner du côté des associations qui pour certaines se disent militantes, et qui, sur certains secteurs, peuvent l'être ou alors l'ont été, mais qui, sous la pression, parce qu'il y a quand même une pression aussi économique qui leur est faite, et la question de la rentabilité, elles y sont confrontées, et la question de la mise en concurrence entre associations, enfin, c'est vrai que quand même, réduire une personne handicapée, un jeune migrant, une personne en difficulté, un jeune en difficulté, en difficulté sociale, le réduire à effectivement une somme de combien il va coûter par jour, ça pose question. Voilà. Et j'en reviens à la question de mes boîtes de conserve. Une boîte de conserve, quand elle est produite, on sait combien ça coûte. Voilà. Tout le travail qu'on va faire pour accompagner, je ne dis pas qu'il ne faut pas normer et avoir une vision effectivement financière du secteur. Pour autant, là, on tire vraiment vers le bas et c'est assez problématique.
Il nous reste 5 minutes avant que ce magazine prenne fin. Est-ce que peut-être vous avez envie de revenir sur cette mobilisation, les prochains rendez-vous, les moyens de... Alors, parce que du coup, vous êtes tous les deux à la CGT. Voilà, les moyens d'accéder, je ne sais pas, à des prochaines assemblées ou lieux de partage sur ce mouvement-là.
Si je peux, bien sûr. Je crois que la question de la mobilisation, elle est portée d'abord par les salariés dans leur boîte, comme on dit, nous, à la CGT. Et je crois que c'est comment, dans les établissements, et on le voit bien, vous avez rencontré les collègues de l'ASEI, mais nous, quand on fait le tour en manifestation ou à d'autres moments où on rencontre des collègues d'autres établissements, d'autres associations, enfin, vraiment, la situation est terrible. Enfin, la situation est terrible. Les exemples ne manquent pas de perte de sens, d'incohérence, etc. Dans le secteur. Donc nous, ce qu'on dit, ce qui est important, c'est les assemblées générales déjà au sein des établissements. Voilà. Il y a des organisations syndicales. Nous sommes à la CGT, mais nous savons que le syndicat Sud est aussi engagé effectivement dans cette mobilisation au niveau local, mais aussi au niveau national. Force ouvrière dans certains départements s'est ralliée effectivement à différentes manifestations et peut aller appeler à la manifestation du 1er février. Voilà. Moi, je crois qu'il faut qu'on continue à s'organiser au sein des établissements et ensuite faire remonter effectivement ce qu'il en est. Et en tout cas, la CGT a pris toute sa part dans l'ensemble de ces mobilisations et continuera à la prendre, bien entendu.
David, un mot de la fin ?
Non, là je le rejoins. Et puis voilà, nous on croit au collectif. Alors si je peux, comme ça, peut-être qu'on aura fait le tour. Mais on pense aussi que le syndicat, alors nous c'est la CGT, mais très honnêtement, l'essentiel c'est l'organisation collective. Et donc oui, les assemblées générales, et parce que tout n'est pas tout le temps un moment de lutte comme ce qu'on vit en ce moment, le syndicat c'est des fois aussi donner du sens. Voilà, nous, chez nous, mais dans beaucoup d'endroits où les syndicats sont forts, souvent, il y a encore de la pensée au travail. Et la pensée au travail vient nourrir les adhésions aux syndicats, chez les jeunes quoi, aussi, qui arrivent dans la boîte. Et donc, le collectif, ça nourrit le collectif, aussi bien pour le travail que pour défendre nos droits et nos conquis. Et ça, vraiment, on y croit plus que sérieusement.
Et une prochaine date ?
Le 27 janvier. Donc, le 27 janvier, c'est une mobilisation pour défendre les conventions collectives et pour défendre les salaires, mais qui est interprofessionnel, national et intersyndical. Et le 1er février, comme le disait Stéphane, là, c'est spécifiquement pour le social et médico-social, mais là aussi, c'est national et intersyndical.
Merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous et puis à bientôt.
Merci à vous.
Et nous, on se retrouve demain à partir de midi pour le magazine culturel de Marie-Madeleine. En attendant, je vous souhaite une excellente après-midi. Salut.